Bonjour, vous êtes bien sur CFM Radio dans l'émission Combien de temps encore, une émission pour faire avancer la cause animale. Alors aujourd'hui, on va avoir deux invités en rapport à deux conférences qui ont lieu à Toulouse. Ce vendredi 19 avril, une conférence organisée par l'association toulousaine Tributaire, la conférence a pour titre L'expérimentation animale, un mal nécessaire. Université Jean Jaurès, salle de représentation de la Maison des Initiatives Indépendantes, de 12h à 14h, avec André Ménache, vétérinaire conseiller scientifique d'Antidote Europe qu'on a reçu le mois dernier, et Monsieur Jean-Baptiste Durand, neurologiste au CNRS. Donc un débat contradictoire. Le 20 avril 2019, donc ce samedi, 20 avril, conférence sur l'expérimentation animale de 19h45 à 22h30, organisée par l'association Mouvement pour la cause animale, à la Maison des associations, 3 places Guy Hersant, en présence d'André Ménache et d'Ophélie Balestan, qui est correspondante Haute-Garonne, candidate aux élections européennes pour le Parti animaliste. Alors, on va avoir tout d'abord Quentin, du Parti animaliste, et puis ensuite on recevra Dorothée Dandis de l'association Tributaire. Donc on va recevoir aujourd'hui donc Monsieur Quentin Charrois-Casemi, qui est du Parti animaliste, pour justement nous présenter un petit peu le programme et les objectifs de ce parti. Bonjour.
Bonjour.
Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous faire une présentation générale du Parti animaliste en France, à Toulouse, au niveau de sa structure et puis des antennes locales?
Oui, bien sûr. Du coup, le Parti animaliste, c'est un parti politique qui a été créé en France en 2016 sous l'impulsion de 7 personnes. Et en fait, on s'est inspiré du Parti animaliste qui était présent aux Pays-Bas. Ça fait depuis 2016 qu'on est présent en politique en France. Et on a présenté une liste aux élections législatives de 2017. Où dans 86 circonscriptions, on a fait plus de 1%, ce qui est plutôt pas mal pour un tout nouveau et petit parti. C'est un parti monothématique, donc qui est centré que sur la cause animale, et c'est un parti qui est indépendant politiquement et financièrement. Donc on ne reçoit aucune aide financière d'autres partis politiques, et on n'a aucun lien avec aucun parti politique ou aucune association de protection des animaux, même si on écoute et on s'inspire de ce qu'elles peuvent faire sur le terrain. Voilà, on est aussi du coup un parti transpartisan, donc ni de gauche ni de droite, parce que la cause animale, ça rassemble tout le monde, qu'on soit à gauche, à droite ou au centre, ou même apolitique. Voilà. Donc au niveau du parti, de comment ça s'organise, on a un bureau national qui est un peu décisionnaire. Ensuite, on a des bureaux régionaux, où il y a une personne à chaque fois dans les bureaux régionaux qui sont aussi présents au bureau national. Et enfin, on a des antennes locales un peu partout en France, avec des correspondants. En Haute-Garonne, à Toulouse, c'est Ophélie Balestan et moi-même qui sommes correspondants pour le département de la Haute-Garonne. Et ensuite, du coup, on fait le lien entre les militants et puis les bureaux, quoi. Après, on est un peu présent partout en France, que ce soit dans les lieux où il y a beaucoup d'habitants ou moins d'habitants, les lieux urbains, la campagne. De plus en plus, en fait, on a de plus en plus de militants et de gens qui s'intéressent au Parti animaliste. Voilà.
D'accord. Et au niveau, justement, vous parliez du modèle des Pays-Bas. Au niveau international, les autres pays, qu'en est-il du Parti animaliste? Je crois qu'il y en a qui existent depuis bien longtemps, en fait.
Oui, c'est ça. Il y a du coup celui du Pays-Bas. En fait, en Europe, on peut décompter aujourd'hui 11 partis animalistes qui vont se présenter d'ailleurs aux élections européennes, comme se présente le Parti animaliste en France le 26 mai prochain. Il y a du coup le Parti animaliste aux Pays-Bas, il y en a un en Belgique, un en Allemagne, un en Suède, un en Finlande, un en Espagne, un en Portugal. Il y en a aussi en Italie, oui, à Chypre. Et au Royaume-Uni. Bon, après, avec l'histoire du Brexit ou pas, je sais pas s'ils présenteront au final une liste, mais ça fait 11 pays en Europe. Et puis dans le monde, il y a l'Australie, par exemple, aussi, où on a un parti animaliste.
D'accord.
Et je crois en Turquie, si je dis pas de bêtises, voilà.
D'accord.
Donc, et ce qu'on peut voir dans tous ces pays-là, en fait, c'est que notamment aux Pays-Bas et en Espagne, il y a des élus locaux qui ont été élus du coup par les gens. Il y a même un eurodéputé néerlandais qui siège actuellement au Parlement européen, du parti animaliste du Pays-Bas. Donc c'est vraiment une cause, la cause animale, c'est vraiment quelque chose qui intéresse les gens et qui est fédérateur.
D'accord. Oui, et justement, on en reparlera un petit peu plus tard, mais au niveau des élections européennes, c'est important que ce parti soit représenté dans de nombreux pays.
Voilà.
Alors, est-ce que vous pourriez approfondir peut-être le programme, c'est-à-dire le programme du Parti animaliste, ses objectifs, les valeurs défendues par le Parti animaliste, et puis les domaines au niveau de la cause animale dans lesquels veut agir le Parti animaliste.
Oui, bien sûr. Le Parti animaliste, du coup, comme je l'ai dit, c'est un parti monothématique, donc c'est que sur la cause animale. Mais c'est transversal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre programme, on a 8 grands thèmes. Donc, c'est des thèmes qui sont portés par un désir de justice envers les animaux, et aussi un désir de progrès de la société pour que les animaux soient mieux intégrés dans notre société, quoi. Donc, on peut commencer, par exemple, pour les européennes, le plus important, ça va être, par exemple, sur les animaux qui sont utilisés pour l'élevage, avec notamment les subventions et la PAC qui sont de plusieurs milliards d'euros, plus de 50 milliards d'euros en Europe. Donc nous, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est faire en sorte que ces subventions qui servent pour le moment, en fait, surtout aux grands groupes comme Lactalis et Doux, puissent aller en faveur des animaux, donc que ça serve à végétaliser l'agriculture en aidant à la reconversion des éleveurs, qu'ils puissent passer d'un mode d'élevage à un mode d'agriculture végétale. Ça va de pair avec l'objectif de réduction de 25% de la consommation de produits issus d'animaux d'ici 2025 qu'on aimerait bien fixer en Europe. Voilà.
D'accord, et c'est vrai c'est très important les programmes qui ont pour objectif de mettre en place des reconversions, des moyens de reconversion à fait possibles. Il suffit de retrousser les manches et d'étudier bien précisément les reconversions qui sont possibles. Et ça, je crois que on n'insiste pas assez, parce que très souvent, on jette à la figure que de toute façon, c'est pas possible, hein, sans élevage. Alors que c'est tout à fait possible,
souhaitable pour les animaux en premier lieu, parce que ça éviterait qu'ils soient tués et qu'ils soient maltraités et qu'ils souffrent pour rien. Et c'est aussi souhaitable pour les éleveurs et les éleveuses qui, aujourd'hui, on le sait, sont en grande souffrance parce qu'ils ont des manques de moyens, ils sont pas soutenus par les aides. Et au final, c'est une partie de la population qui a un taux de suicide malheureusement le plus élevé. Donc, c'est gagnant-gagnant.
Et que des politiques se mettent enfin autour d'une table pour étudier les moyens de reconversion possibles, c'est plus qu'urgent, quoi. C'est vraiment... D'accord.
Ça prend sens au niveau européen, parce que c'est au niveau européen notamment que se décide la PAC et toutes les subventions d'aide pour l'agriculture.
Ouais.
Voilà. Et du coup, en attendant bien sûr qu'il y ait cette réduction de consommation d'animaux de 25%, on aimerait aussi interdire du coup les pratiques les plus génératrices de souffrance pour les animaux. On peut penser à la castration à vif des porcelets, ou à l'épointage des oiseaux, le fait de leur réduire, de leur raccourcir le bec, alors que tout cela sans anesthésie, donc ça provoque des souffrances inutiles. Ou aussi, par exemple, l'interdiction des cages pour les poules ou pour les oiseaux d'élevage. Voilà. Après, on a aussi dans le cadre européen, on aimerait bien limiter le transport des animaux à 8 heures. Aujourd'hui, il n'y a pas de limitation. Et aussi interdire l'exportation des animaux vers des pays tiers, des pays en dehors de l'Europe, en fait, pour essayer de réduire la souffrance et le stress lié au transport, quoi.
Mm-hmm. Et puis des pays qui vont pas forcément, si ces règles peuvent être mises en place, qu'ils les respecteront pas forcément, donc c'est pas la peine que les transports, qu'au niveau des transports, on puisse aller sur des pays qui risquent de ne pas du tout respecter les mesures si elles sont heureusement prises, en fait.
Voilà, c'est ça. Donc, pour le moment, on se cantonne, ce qui est déjà pas mal, à l'Union européenne. Mmh, ça représente quand même pas mal de pays. Et des millions, des milliards en fait d'animaux. On s'imagine mal le nombre d'animaux en fait chaque jour qui sont transportés sur nos routes à l'abri de nos regards. Mmh. On a aussi du coup dans le programme, on a aussi un volet pour les animaux aquatiques, donc les poissons, les mammifères marins, avec l'interdiction de la pêche électrique et de toutes les formes de pêche les plus destructrices. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps encore, on parlait par exemple des dauphins qui s'échouaient sur les plages françaises. Il faut savoir que la plupart de ces dauphins qui meurent, c'est en fait à cause de la pêche et des filets qui dérivent sur les côtes européennes. Donc on aimerait bien essayer de réduire ces morts inutiles et aussi de réduire la souffrance des poissons qu'on pêche. Mmh. Avec aussi le fait que les poissons puissent être tués et étourdis directement en fait après avoir été pêchés, parce que aujourd'hui un poisson quand il est pêché il peut agoniser pendant des heures, plus de 4 heures même, pour aucune raison valable en fait. Mmh. Voilà, c'est vraiment de la souffrance inutile.
Alors on va juste faire une pause musicale et on reprend tout de suite après le problème des poissons. Bien toujours sur CFM Radio. On reprend l'entretien avec Quentin du Parti Animaliste. Donc on en était sur le problème des poissons.
Ouais,
que les gens prennent enfin conscience qu'un poisson est un être vivant, sensible, sentient, c'est-à-dire qu'il peut éprouver de la souffrance, des émotions, et il éprouve autant de souffrance qu'un mammifère. Et je crois que c'est vraiment important de le souligner parce que c'est des grands oubliés très souvent de la cause animale. Là, il y a vraiment un éveil, hein, je crois, de la prise de conscience, même au niveau des associations de la cause animale qui souvent, ils étaient un peu oubliés. Et je crois que le problème de la pêche, c'est très important de le souligner, des souffrances que ça engendre au niveau des poissons.
Oui, même au niveau de la pêche et du coup aussi de la pisciculture avec les élevages de poissons dans des hangars ou dans des bassins où il y a une mortalité très haute et où les poissons agonisent parce qu'ils ont pas assez d'eau, ils ont pas assez d'oxygène pour vivre décemment. Voilà, c'est des choses qui sont aujourd'hui inadmissibles. Et encore une fois, on n'est pas contre les pêcheurs ou tout ça. On aimerait bien d'ailleurs favoriser la reconversion aussi vers le vers le végétal et notamment vers les algues pour les pêcheurs, pour qu'ils puissent continuer à travailler, mais sans pour autant détruire
les
océans et les poissons. Ouais. Voilà, c'est ça exactement.
Ouais.
On n'est pas contre les personnes.
Au niveau des autres domaines, peut-être, de ce qui concerne la condition animale.
Bien sûr, ça va parler aussi à pas mal de monde. C'est par rapport aux droits pour les animaux de compagnie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français et de Françaises qui ont des animaux de compagnie, et pareil en Europe. Et on aimerait bien, du coup, que ces animaux qui font partie, quand on en a quasiment de notre famille, aient aussi plus de droits et soient mieux protégés par la loi. Donc on aimerait bien mettre en place des peines plus lourdes pour punir la maltraitance. On l'a vu encore récemment, il y a un chat qui a reçu une flèche dans son corps il n'y a pas très longtemps. Voilà. On aimerait bien que les personnes qui commettent des actes de maltraitance soient réellement punies par la loi et qui aient vraiment des peines très lourdes pour empêcher que ça soit refait, par exemple. On a aussi le fait pour d'aider les refuges pour la stérilisation des chats et des chiens, de tous les animaux errants, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte très très cher et les refuges ne marchent que grâce aux dons et aux vétérinaires qui les aident. Et bien souvent, les pouvoirs publics ne mettent pas en place de vraies politiques de stérilisation des animaux errants. Et
Oui, souvent ils sont. Moi, il y a eu plusieurs émissions là sur CFM sur le fait que les animaux dits de compagnie, déjà le terme est bon, mais n'ont pas forcément une vie aussi idéale qu'on peut le croire, parce que il y a beaucoup de maltraitance légale. J'ai pas mal développé la maltraitance du collier électrique. La nouvelle grande mode des chiens dans les cages pour pas qu'ils abîment les meubles, ça c'est une nouvelle grande mode, et c'est des maltraitances qui sont souvent cachées, c'est-à-dire qu'on les voit pas. Bon, on les voit pas. Donc il y a un réel problème de maltraitance même sur les animaux dits de compagnie qu'on croit trop souvent favorisés. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pas une vie très très qui ont des conditions de vie très difficiles, les chiens à la tâche, voilà.
C'est vrai qu'on peut des fois se promener voir des chiens aussi qui sont enfermés dans un tout petit endroit avec juste du béton, alors qu'ils pourraient être dans un jardin ou quoi.
Il y a beaucoup de conditions qui sont complètement légales. Il y a des chiens à la tâche dans les fermes, ou voilà, des chiens en cage dans les apparts. Enfin, et c'est légal.
Pour ça que c'est important nous, on aimerait bien instaurer un commissaire européen à la protection animale, voilà, qui est des vraies instances et aussi du coup des élus qui puissent promouvoir des lois pour protéger ces animaux, voilà. Qui sont des êtres vivants qui méritent une vie décente. Ce ne sont pas juste des objets qui appartiennent à telle ou telle personne. Ce sont des animaux qui, leur vie leur appartient.
C'est pareil, c'est intéressant de travailler sur la notion de maître et de propriétaire de chien ou de chat. Ça serait un terme peut-être à revoir aussi, parce que ça, propriétaire, ça veut dire que c'est un bien, c'est un objet.
C'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait plus parler de compagnons ou de membres de la famille que d'animaux de compagnie ou que de maîtres et
ou de tuteurs ou de tuteurs ça serait peut-être plus.
C'est vrai que les mots sont importants.
C'est important, ouais.
C'est vrai.
Au niveau peut-être de l'expérimentation aussi, puisque je crois qu'il y a la conférence qui arrive à grands pas.
Oui, c'est ça, il y a la conférence qui arrive samedi dans 3 jours. Là. Ça sera à Toulouse, 3 places Guy Hersant, à la Maison des Associations, avec Antidote Europe et puis pour le parti animaliste Ophélie Balestin. Et en effet, le parti animaliste est contre l'expérimentation animale et souhaite mettre en place des moyens de substitution pour l'expérimentation animale. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a environ 12 millions d'animaux chaque année en Europe qui sont utilisés pour l'expérimentation animale. C'est des chiffres qui sont donnés par les laboratoires. On peut, je pense, dire qu'ils sont sous-estimés.
Oui, on peut les multiplier par...
voilà. Ouais. Mais rien que 12 millions d'animaux, c'est 12 millions d'animaux de trop. Ouais. On parle bien sûr des souris, des rats, mais on a aussi des chiens, des chats, des singes et des animaux aussi invertébrés. Donc c'est vraiment Et quand on dit des animaux, voilà, 12 millions d'animaux, c'est 12 millions d'individus, 12 millions de, d'animaux qui ont une individualité et qui ont envie de vivre et qui souffrent chaque jour le martyre pour au final pas grand chose, puisque aujourd'hui on sait que les tests sur les animaux en fait sont peu, voire pas du tout efficaces, et que les moyens de substitution sont plus efficaces en fait. Voilà. Donc nous on aimerait bien faire en sorte que dans, déjà premièrement dans l'enseignement aujourd'hui, que ça soit interdit d'expérimenter sur les animaux, parce que c'est inutile, et puis il y a beaucoup d'étudiants de base qui s'en serviront jamais ensuite. Voilà. Puis aujourd'hui il y a des technologies qui existent pour s'entraîner sans utiliser les animaux. Il y a la technologie 3D, il y a les mannequins, il y a la réalité virtuelle. Donc je pense qu'en 2019 on est capable de beaucoup de choses. Voilà. Mmh. Ensuite, on aimerait bien aussi interdire les nouvelles implantations d'élevage pour les animaux de laboratoire. Aujourd'hui, faut savoir qu'il y a pas mal d'animaux en fait la plupart des animaux sont en fait élevés pour ensuite finir dans des laboratoires. Donc, on aimerait bien interdire les nouvelles implantations de ces élevages et puis faire en sorte que ceux qui existent ferment au fur et à mesure. Mmh. Et puis aussi le fait de pouvoir visiter les élevages, mais aussi les personnes qui font des tests, les visiter de façon inopinée, quoi, on va dire, pour voir si elles font pas des choses illicites et pouvoir mettre des amendes et des sanctions conséquentes pour toutes les pratiques illicites qu'elles pourraient faire. En sachant qu'aujourd'hui la législation elle est très 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 floue sur ce qu'on a le droit ou ce qu'on n'a pas le droit de faire sur un animal pour l'expérimentation animale. C'est très vague, et du coup en fait on peut s'apercevoir que tout et n'importe quoi est fait sur les animaux.
Il n'y a aucun crédit en plus au niveau des crédits qui sont donnés pour les méthodes dites de substitution, parce que ça ne devrait pas s'appeler comme ça, ça devrait être les seules méthodes, normales. Mais les crédits au niveau européen c'est une catastrophe, il y a les lobbies qui sont là-dessus. Et,
c'est ça.
Donc, si au niveau européen, ça pouvait... Alors, il y a les fameuses directives...
Il y a la directive D3R,
qui, de toute façon, le peu d'avancées, c'est même pas appliqué, donc...
Non, c'est ça. Et puis, au final, c'est les animaux, les rongeurs, qui prennent cher ensuite après. Mmh. Parce que, du coup, ceux qui font les tests sur les animaux se disent que, en effet, sur un chimpanzé ou sur un chien ou un chat, ça va choquer la population, mais sur une souris, bon, c'est qu'une souris. Alors qu'une souris
a le droit de vivre, autant que n'importe quel être humain.
Voilà. Donc, en effet, de ce côté-là, c'est un peu inadmissible. Et du coup, pour les subventions et tout ça, nous, on aimerait bien, en effet, mettre en place des aides pour que les laboratoires puissent faire la transition au niveau du matériel et des méthodes. Mettre en place aussi des formations pour que les chercheurs puissent avoir ces méthodes et, les connaissances nécessaires pour aller vers la fin de l'expérimentation animale. Voilà. Ouais. Donc c'est des choses qui sont aujourd'hui possibles au niveau européen, puisque il y a des programmes en Europe. Il y a Horizon 2020 par exemple, qui est pour tout ce qui est scientifique et tout ça, qui va finir en 2020 et qui peut permettre de mettre des moyens financiers dans les méthodes qu'aujourd'hui on appelle de substitution.
D'accord.
Pour arrêter ensuite l'expérimentation animale.
Voilà. D'accord. Et ça serait au niveau européen, Horizon ?
C'est au niveau européen. C'est Horizon 2020.
D'accord.
Et c'est un des moyens d'action qu'on peut avoir pour aider les moyens de substitution. Quoi.
D'accord. Et c'est mis en place par des groupes de chercheurs, par des associations, parce que c'est vraiment, ça serait une lueur d'espoir, en tout cas pour.
En fait, si je dis pas de bêtises, Horizon 2020, c'est un programme européen pour la recherche et le développement.
D'accord.
Du coup, en fait, ça regroupe les actions de l'Union européenne en faveur de la recherche et de l'innovation.
Donc c'est vraiment là qu'il faut vraiment.
Voilà.
Ouais, ouais, d'accord.
Ça pourrait permettre de mettre un coup de pouce
de vraiment mettre en avant les méthodes dites de substitution.
C'est comme le programme REACH qui
est une catastrophe.
Voilà, qui est une catastrophe.
Qui a sacrifié encore des milliers d'animaux.
C'est ça.
Ouais.
Et aujourd'hui, on pourrait mettre dans ce programme une ligne en disant que c'est les moyens de substitution qui doivent être utilisés, quoi. Ouais. Par exemple, notamment pour les substances chimiques qui sont testées inutilement sur les animaux. C'est, enfin, j'invite les gens à regarder des images ou des reportages ou à lire le livre Animal de la profession animale de laboratoire. Ouais. On s'imagine pas en fait la souffrance des animaux et tout le mal qu'on peut leur faire sans aucune raison scientifique en fait.
Et puisqu'on n'accepterait pas pour des êtres humains, heureusement.
C'est ça, oui.
On l'accepte pour d'autres êtres vivants, donc on est sur du spécisme pur et simple, c'est-à-dire que.
On parle pas de tests sur une plante, on parle de tests sur des animaux, quoi. C'est comme si on vous volait votre chat ou votre chien et qu'on le faisait inhaler des substances toxiques et qu'il mourrait dans d'atroces souffrances au bout de 2 semaines.
Oui, ou de 2 mois, parce que ça peut durer des mois. Ouais. Ah oui, non, c'est ça, c'est que c'est l'expérimentation sur l'animal, mais vraiment le point sur le gros problème du spécisme. C'est-à-dire que, alors que tout être vivant a le droit de vivre avec le moins de souffrance possible, a le droit de vivre sa vie, et aucune vie, même une vie humaine, ne peut reposer sur la souffrance d'un autre être vivant, qu'il soit humain ou non humain. Donc le problème, il est vraiment, vraiment important. Après, je crois... Il faudrait que je revoie les chiffres, hein. Mais je crois aussi qu'il y a un gros problème de volonté politique et scientifique, parce que il me semble que dans plus de 70% au niveau des sondages,
c'est 82% même.
Voilà, qui sont contre. Des gens qui sont contre, je crois que c'est 72% au niveau de la population en France, il me semble, hein, qui est contre l'expérimentation animale. Donc ça veut dire qu'il y a un manque complet de volonté scientifique et politique de mettre en place des méthodes qui sont maintenant de plus en plus demandées par les citoyens, en fait.
C'est ça. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais du coup, il y a les citoyens, il y a aussi les citoyens, on va dire les médecins, du coup, et les scientifiques, qui même, en fait, eux aussi, sont pas pour l'expérimentation animale, en fait. Il y a eu un sondage qui a été fait ou une étude qui a été faite et il y a un chiffre qui a atteint 82% des médecins en fait qui aimeraient qu'on revoie en fait ce principe de faire des expérimentations sur les animaux.
D'accord, oui, c'est énorme.
Donc, c'est vraiment une question de vous avez raison, de pouvoir politique et de lobby derrière. Et c'est un peu le problème dans la cause animale. C'est pareil pour la chasse, pareil pour les cirques, les animaux dans les cirques, c'est la population est contre, mais du fait de certains lobbies et du fait de certaines personnes qui ont du pouvoir et tout ça, eh bien les lois en fait ne vont pas vers ce que veut la population. Mmh. C'est pour ça d'ailleurs que le parti animaliste existe. C'est pour que ceux qui aiment les animaux, voilà, qui sont contre la souffrance animale, puissent exprimer un vote en faveur des animaux aux européennes le 26 mai prochain.
D'accord, tout à fait.
Pour l'expérimentation animale, je finirai quand même sur une dernière statistique où, en fait, aujourd'hui, la quatrième cause de mortalité dans les pays riches et développés, c'est dû en fait aux effets secondaires des médicaments. Et en fait, les médicaments ont été testés sur les animaux, mais ça prouve bien en fait que le fait de tester sur les animaux, c'est pas une valeur sûre pour dire que ce médicament est sans danger et sans risque pour l'être humain. Donc on peut vraiment se cacher derrière rien du tout pour être quand on est pour l'expérimentation animale. Il y a rien de défendable là-dedans, en fait.
Il y a une inertie totale, c'est ce que disait aussi André Ménage, une inertie totale de la part des scientifiques. Il y a aucune volonté au niveau politique. Donc là, il est vraiment temps que ça bouge, mais vraiment, c'est vraiment urgent. Je pense. Voilà. Ouais.
C'est pour ça qu'on est présent aux élections européennes, qu'il y a 11 partis qui sont présents aux élections européennes et qu'on espère, et de toute façon il y en aura les sondages le monde, des élus animalistes au Parlement européen. Et donc on commencera à changer toutes ces choses-là qui
doivent évoluer maintenant. Oui,
ouais, voilà.
Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. C'est voilà, en espérant. Alors donc le 26 mai, on rappelle, élection européenne.
Avec les élections européennes le 26 mai, avec le Parti animaliste qui sera présent dans tous les bureaux de vote. On présente une liste nationale comme tous les autres partis. Et on sera présent dans tous les bureaux de vote. Voilà, il n'y aura juste pas de profession de foi dans les boîtes aux lettres parce qu'une élection européenne, ça coûte très très cher. Mmh, mmh. Et on n'a pas les moyens d'envoyer les bulletins de vote directement chez les gens. Mais voilà, si vous êtes des amoureux des animaux ou si vous voulez que la souffrance animale soit réduite et un jour interdite, je vous invite à voter pour les animaux et à voter pour le Parti animaliste en France.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous de nous avoir laissé ce temps de parole.
Non, c'est important. En plus, comme le 26 mai, c'est bientôt. Je crois que c'était important que vous puissiez justement vous exprimer. C'est vraiment important pour eux, pour les animaux.
Oui, c'est ça. On fait ça pour les animaux. Ouais.
Merci beaucoup. Et puis bonne chance en tout cas. Et bonne conférence le samedi 20.
Samedi à 19h45, 3 places Guy Hersan à la Maison des Associations à Toulouse.
À Toulouse, voilà. Bonne chance et à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir, à bientôt.
On va continuer par une pause musicale et puis on reprendra le cours de l'émission juste après.
Ok, Tokyo, South America, Australia.
Sur CFM Radio, pour l'émission Combien de temps encore ? Et on a maintenant le plaisir d'accueillir Dorothée Dindis de l'association Tributaire, qui est une association toulousaine. Et Dorothée, je vais te laisser présenter l'association.
Très bien. L'association Tributaire, du coup, c'est une association étudiante située à la faculté Jean Jaurès à Toulouse. Le but en fait de l'association, il est divers. Premièrement, c'est de sensibiliser à la cause animale, plus spécifiquement du coup à l'exploitation animale, donc sous toutes ses formes, que ce soit les cirques, les élevages, l'expérimentation animale, les abattoirs, etc. On a organisé plusieurs choses, et là on essaye de mettre en place notamment une alternative végétale au sein du restaurant universitaire. Donc voilà, pour l'instant on en est là, et vraiment le but c'est de sensibiliser au maximum les étudiants de la faculté.
D'accord. Au niveau de la, voilà, au niveau des actions qui sont faites à, dans la fac, donc elle a été créée quand, cette association ? C'est assez récent, je crois.
Oui, alors l'association a été créée en janvier 2017 à l'initiative donc de plusieurs étudiants de la faculté Jean Jaurès. C'est en fait, on s'est rendu compte, on avait eu l'occasion de faire le printemps étudiant avec l'association L214, et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il manquait vraiment ce genre d'association au sein de l'université. Et c'était vraiment une demande que faisaient les étudiants, parce que beaucoup se posaient des questions éthiques, des questions sur le véganisme, etc. Donc on s'est dit qu'il serait bien de monter cette association, puisque il en existe déjà en fait des associations animalistes au sein d'autres universités, comme à Lille, à Lyon, et effectivement à Toulouse, c'était un manque. Il n'y en avait pas. Donc on a essayé voilà, de combler ce manque et effectivement voilà, de créer ça pour sensibiliser au maximum les étudiants. Voilà.
D'accord. Et c'est des étudiants, il y a quel domaine d'études qui sont dans...
Alors la faculté Jean Jaurès, c'est une fac de lettres. Donc voilà, ça va être des étudiants en sociologie, en philosophie, en musique, en art, enfin... voilà, c'est vraiment une faculté de lettres pour le coup, donc c'est pas vraiment scientifique, c'est vraiment plus voilà sur le... Donc c'est pour ça que le problème éthique, c'est des choses qui parlent aux étudiants. Donc on n'a pas vraiment eu de mal à trouver des échos quand on parlait d'éthique animale aux étudiants de la faculté. Et au-delà de ça, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une forte demande de la part des étudiants qui ne pouvaient pas manger végétalien au sein de l'université, et qui nous ont demandé justement comment faire, comment trouver des alternatives. C'est pour ça qu'on a voulu mettre en place des actions qui visaient à végétaliser le restaurant universitaire. Il faut savoir que dans les autres facultés, un menu végétalien a déjà été mis en place, notamment à Besançon, à Lille, et dans d'autres facs qui sont en train de prendre cette voie-là. Mais à la faculté Jean Jaurès, aujourd'hui, il n'existe aucun menu. Alors, il existe un menu végétarien, mais ce n'est pas suffisant pour les étudiants qui constamment nous envoient, par exemple, des mails sur notre page Facebook pour nous expliquer qu'ils sont un peu bloqués et qu'ils ne peuvent pas manger avec leurs amis, par exemple, au restaurant universitaire.
D'accord. Et ça va être mis en place ? Tu penses que ça va, y a des bonnes choses pour eux ?
Alors, la dernière action, on a fait une action en février qui visait du coup à faire signer des cartes pétitions. On s'est... mis en collaboration avec une association qui justement a déjà réussi à obtenir ça dans leur faculté, et on a obtenu en même pas 2 heures, on a obtenu 500 signatures pour mettre en place ce menu-là. Donc on est en train d'essayer de rencontrer les responsables du CROUS, de rencontrer voilà les directeurs du CROUS. Pour l'instant, on a eu un refus. C'est-à-dire que la personne nous a dit qu'il y avait déjà un menu végétarien qui pouvait adapter éventuellement au végétalien, sauf que ce menu ne correspond vraiment pas à un menu végétalien. C'est-à-dire que il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de... Voilà, c'est essentiellement des féculents. Et clairement, c'est pas adapté. Voilà, c'est pas une alimentation végétalienne. Voilà.
D'accord. Alors au niveau des, justement, tu disais au niveau des actions que vous avez mises en place et des diverses manifestations, je crois qu'il y en a une très importante qui arrive vendredi. Est-ce que tu peux nous la présenter, nous en parler ?
Alors nous, donc vraiment, c'était comme je le rappelle, c'était vraiment pour sensibiliser les étudiants à la cause animale. Là, en l'occurrence, on a organisé donc cette conférence qui va avoir lieu vendredi à la fac, à la Maison des Initiatives étudiantes. Et la conférence va essayer de traiter le sujet de l'expérimentation animale. Donc, le but, c'est de répondre à la question « L'expérimentation animale est-elle un mal nécessaire ?» Et en fait, on a réussi à avoir deux intervenants. Donc, le premier intervenant, c'est M. André Ménache, qui est vétérinaire et conseiller scientifique pour l'association Antidote Europe. Et le deuxième intervenant, c'est M. Jean-Baptiste Durand, qui, lui, est neurobiologiste au CNRS. Et en fait, la conférence, elle a pour but de créer un débat contradictoire entre ces deux scientifiques pour qu'ils nous expliquent un petit peu à la fois ce qu'est l'expérimentation animale et à la fois comment on peut sortir de l'expérimentation animale par des méthodes alternatives. Donc ça, c'était vraiment important pour nous de traiter ce sujet-là pour essayer de vraiment susciter un débat, parce que ce soit les étudiants de la faculté, les animalistes aussi qui seront amenés à assister à cette conférence, c'est important pour nous que chacun puisse se faire son opinion, puisque même au sein de notre association, il n'y a pas de consensus clair déjà à ce sujet. Donc même pour nous, c'était important d'avoir des réponses à nos questions sur l'expérimentation animale.
D'accord. Alors, on va faire une petite pause et puis on reprend tout de suite après l'entretien. À se changer en roi, à hurler à la lune, à traquer la fortune, tout ça pour traîner son poids. Au risque de s'y plaire, au moment de s'y croire, sonner le courant d'air, faites un exutoire. Il faudrait qu'on se lève au fond, il a de la classe, ou alors qu'on prenne la scène. Sur CFM Radio dans l'émission Combien de temps encore, et nous recevons donc Dorothée Dandis de l'association Tributaire, notamment avec une forte actualité puisque vendredi 19 avril, conférence avec André Ménache de l'association Antidote Europe et un scientifique du CNRS qui lui va je pense défendre l'expérimentation animale. Alors l'heure exacte, c'est de 14h à... Non, de... Tu peux me rappeler l'heure exacte de la...
Alors, l'heure exacte, c'est midi à 14h à la Maison des Initiatives étudiantes à la faculté.
D'accord. Est-ce qu'il y a... je pense que tous les étudiants des facs de pharmacie et de médecine, j'espère qu'il y en aura qui viendront, parce que très souvent, ils ne sont pas du tout au courant des méthodes dites de substitution. Donc, ce qu'il faut espérer, c'est qu'ils puissent venir.
Ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que là, on a eu l'occasion pendant le printemps étudiant de se rendre à la faculté de Paul Sabatier, où on a rencontré des étudiants de sciences dures pour le coup, et on leur a fait savoir qu'il y avait une conférence à ce sujet-là. On a aussi pour but de filmer cette conférence pour qu'elle soit diffusée au maximum. Et effectivement, il y a beaucoup d'étudiants qui nous ont contactés pour nous dire qu'eux ne pouvaient pas être là ce jour-là, mais qu'ils seraient contents d'avoir la vidéo pour leurs études, justement, ça pourrait leur servir. Donc, ils seraient contents d'avoir la vidéo pour pouvoir voir de quoi il en retourne. Donc, même les étudiants de sciences dites dures commencent à vraiment s'intéresser à ce problème-là. Oui.
D'accord, ouais. Parce qu'au niveau au niveau de tributaire, tu disais qu'il y avait toute forme d'exploitation animale qui sont bien sûr dénoncées, et le but étant l'abolition, que ce soit les cirques ou l'élevage, mais notamment justement l'expérimentation animale est une partie importante, je crois, des thèmes que vous voulez aborder, puisque comme tu le disais, en plus étant dans une fac de philo. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir le développer sur le plan éthique, c'est-à-dire philosophique et éthique. Puisque là, les conférences, la conférence va être... celle du vendredi, je pense, va être plutôt dans un cadre scientifique.
Oui, c'est ça.
Et celle peut-être de samedi sera peut-être plus d'ordre, enfin dans une réflexion peut-être plus éthique que scientifique.
Oui, alors en fait, il y a deux conférences. Donc, il y a une autre conférence qui aura lieu samedi à la Maison des associations de Toulouse, qui aura lieu donc à 19h45. Et cette fois-ci, ce n'est plus tributaire, mais c'est Mouvement pour la cause animale, donc une autre association de Toulouse, qui organise, c'est une réunion publique où André Ménage aura l'occasion à nouveau de s'expliquer et d'expliquer plus largement les méthodes de substitution. Et en face, il aura Ophélie Balestan, qui est une correspondante Haute-Garonne et qui est candidate aux élections européennes pour le Parti animaliste. Donc là, on aura les deux points de vue, c'est-à-dire on aura un point de vue scientifique soulevé par André Ménage et effectivement un point de vue éthique donc soulevé par le Parti animaliste.
Puisque je pense que le problème fondamental, il est d'ordre éthique. Avant tout.
Alors sachant que le sujet de l'expérimentation animale, c'est pas un sujet nouveau. C'est-à-dire que il a été traité largement, notamment en philosophie, et depuis toujours, les philosophes se sont interrogés sur la pertinence de maltraiter les animaux à des fins scientifiques, pour le coup. On peut penser à Pythagore qui, par exemple, ne voulait pas assister aux expérimentations animales qui avaient lieu sur la place publique. Mais voilà, donc c'est pas un sujet nouveau et le problème éthique, que ce soit même pour les autres formes d'exploitation, il a toujours été posé en philosophie. On s'est toujours interrogé sur l'intérêt de faire du mal aux autres vivants, pour le coup.
Et là, j'ai l'impression, heureusement, qu'il revient, que ce problème philosophique revient avec force, en fait, depuis peut-être une cinquantaine d'années, un peu moins, mais j'ai l'impression que là, de nouveau, il y a vraiment une préoccupation éthique de ce problème. C'est ce que tu dis, que ce soit au niveau de l'expérimentation animale ou d'autres types d'exploitation. Là, j'ai l'impression que le problème est de nouveau posé. Dans le cadre au niveau philosophique.
C'est ça. Alors, on peut dire que vraiment l'essor de ce problème éthique lié aux animaux, il a vraiment eu lieu dans les années 70, où là, on a eu des philosophies anglaises, américaines, qui ont pris le relais des anciennes philosophies pour un peu les contredire et pour un peu expliquer et essayer de mettre au jour le sujet animal. et expliquer surtout pourquoi les animaux devraient être traités de façon égale. Et effectivement, il y a tout un pan de la philosophie anglaise, américaine, qu'on peut penser à Jeremy Bentham, par exemple, qui ont mis au jour le fait que les animaux sont des êtres sensibles et qui ont par le biais de l'utilitarisme, en tous les cas, vraiment cette réflexion est revenue en force à partir des années 1970 où là on a eu carrément des mouvements animalistes qui se sont mis en place aux États-Unis et qui ont repris les anciennes pensées, c'est-à-dire que ce soit les pensées cartésiennes, toutes ces pensées-là qui pour le coup faisaient de l'animal une machine et les ont détruites par de nouvelles théories philosophiques.
Avec en plus une avancée, c'est en plus vraiment conforté par les sciences de l'éthologie qui mettent à jour maintenant, que l'animal est un être vivant, sentient, capable de sentiments, d'émotions, et donc ils viennent appuyer ce mouvement philosophique qui demande que l'animal soit traité comme un individu à part entière, en fait. Et l'éthologie vient vraiment appuyer et renforcer cette notion. Donc je pense qu'il y a vraiment une belle avancée en ce moment. On a l'impression que ça, il y a un peu d'espoir, je dirais.
Alors je sais pas si on peut dire que la société vient plus éthique, mais en tous les cas, elle se pose de plus en plus ces questions-là qui resurgissent parce que notamment on a eu, on a plus facilement accès aux informations qui nous ont toujours été cachées, c'est-à-dire maintenant on sait pertinemment ce qui se passe dans un abattoir. Pour l'expérimentation animale, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est difficile de rentrer dans un laboratoire encore aujourd'hui. Mais effectivement, plus personne ne doute qu'un animal souffre. Et je pense que l'idée de l'animal-machine, on l'a totalement détruite.
Heureusement, oui, il y a, à mon avis, plus du tout. Enfin, à mon avis, c'est une aberration.
C'est ça. Et l'éthologie, effectivement, a aidé et plus ou moins à comprendre qui était l'animal. Voilà.
Alors, est-ce qu'au niveau de la conférence, est-ce que toi, tu as pour l'instant quelque chose à rajouter au niveau de tributaire que tu voudrais aborder plus précisément ou...
Non, la seule chose, voilà, c'est cette conférence, elle est importante que ce soit pour aborder le point de vue éthique ou le point de vue scientifique. Il faut savoir que les deux intervenants, ils auront 1h30. Donc chacun aura un temps pour parler. Ils auront tous les deux 15 minutes pour se présenter, pour expliquer leur travail, ce qu'ils font comme recherche, etc. Et ensuite, on veut lancer un débat entre deux pour que tous les deux puissent expliquer pourquoi ils font ça, etc. Enfin, qu'ils puissent débattre vraiment entre eux. Et ensuite, on devait vraiment faire une partie où, là, il y aura des questions avec le public. Et comme on est vraiment dans une fac de lettres, pour le coup, on a prévenu nos deux intervenants que même si c'était une conférence qui se base d'un point de vue scientifique, forcément, les questions éthiques vont ressurgir.
Et heureusement.
Voilà. Voilà. Parce qu'on ne peut pas rester que sur le point de vue scientifique. Oui. Parce que vraiment, l'expérimentation animale, elle relève de ces deux points-là, c'est-à-dire le côté éthique et le côté scientifique. Oui. Donc, on peut pas faire l'impasse sur le côté éthique. Voilà. Et ils sont parfaitement au courant. Ils le prennent très bien. Et ils sont parfaitement informés de ça.
D'accord. Mais écoute, Dorothée, je te remercie, en tout cas, de cet entretien. Oui. Je te remercie pour l'organisation de cette conférence et de toute façon, à très bientôt. Si prochain un prochain événement, tu seras la bienvenue sur cette antenne en tout cas.
C'est gentil, merci de m'avoir reçu.
Bon courage, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. On se retrouve dans un mois avec d'autres invités, d'autres actualités. Vous pouvez retrouver l'émission, toutes les émissions en podcast sur CFM Radio. Combien de temps encore ? Bonne écoute et bonne semaine et bon mois.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.